vais vous emmener, comme l'a dit monsieur Lafond, au Caire. Je vais vous présenter un ouvrage que, en raccourci, j'ai intitulé « Les bonnes pratiques officinales selon Quinn et Lattas ». C'est un livre que l'on peut considérer comme étant l'un des premiers livres écrits par un apothicaire pour les apothicaires. Ce livre, en fait, son titre intégral, en traduction, est « Bonne pratique à l'officine et règles pour la préparation et la composition des médicaments salutaires pour les corps ». L'auteur, qui s'appelle dans son nom développé Daoud Abinasr Quinn el-Attar el-Israeli, est un personnage sur lequel on a très peu de renseignements. On sait qu'il a vécu au Caire, au XIIIe siècle donc, et plus spécialement sous la première dynastie Mamelouk, qui avait pris le pouvoir en 1250 pour réfréner les ardeurs des hordes de Gengis Khan. Sinon, on ne sait pas grand-chose sur sa vie. On sait qu'il a écrit, en dehors de cet ouvrage, un livre qui était destiné aux règles au Bimaristan, c'est-à-dire les règles de l'hôpital, mais c'est un livre qui est perdu. Si l'on s'intéresse maintenant aux diverses parties de son nom, il y a deux choses. Alors moi, je vous parlerai à son sujet de soit Quinn el-Attar, soit Daoud el-Attar, et on laissera le reste de côté. Alors, dans son nom, bon, on voit à la fin, j'ai indiqué en bleu el-Israeli, donc il était juif, et c'est un personnage donc dont le nom vient s'ajouter à la longue liste des savants qui ont de confession juive qui ont exercé sous la domination musulmane. Quant à el-Attar, c'est un mot qui est très intéressant parce qu'il nous rapproche de la profession de ce personnage. En fait, dans la racine de ce mot attar, il y a des idées avec les odeurs, les fragrances et les parfums. Et el-Attar a d'abord indiqué la profession de parfumeur, de droguiste, mais à l'époque de Quinn el-Attar, c'est un nom qui est devenu quasiment synonyme de Sayyid Ali, et Sayyid Ali, c'est le nom à proprement parler que le donne aux pharmaciens. Alors, pour ce qui est maintenant de son ouvrage, je vais également présenter ici le titre complet de son ouvrage en transcription, et les mots importants sont Minaj et Doustour, qui indiquent que dans cet ouvrage, on va vraiment nous parler de règles à propos de la pharmacie. Et puis, l'autre mot très intéressant, c'est El-Doukan. El-Doukan, à la base, c'était une simple planche sur laquelle les commerçants venaient présenter leurs produits. Puis, c'est devenu une boutique. Et enfin, à l'époque de Daoud el-Attar, cela va prendre le sens d'une apothicairerie. Alors, dans cet ouvrage que je vous présente ici, alors dans sa forme imprimée, et cette fois le titre est en arabe, on sait que c'est un livre qui a été écrit en 1260, parce que le copiste a signé la copie. On en conserve encore une trentaine d'exemplaires manuscrits, ce qui veut dire qu'il y en a certainement eu beaucoup de perdus et que c'est un livre qui a été extrêmement utilisé. À partir de 1870, il est édité et imprimé au Caire pour la première fois. Puis il y a de nombreuses réimpressions et aujourd'hui on dit, je ne l'ai pas vérifié, que l'on utilise encore ce livre chez les droguistes. C'est un livre qui comprend 25 chapitres et dans ces chapitres, un certain nombre vont concerner donc les règles de bonne moralité, mais également les règles de bonne tenue d'une officine. Et puis, il y a des règles sur la conservation des simples, sur leur recueil, sur le temps à respecter pour que les simples acquièrent toutes leurs facultés et soient le plus efficaces possible. Il y a des chapitres sur la falsification, sur les succès d'année, mais le cœur de l'ouvrage présente des formules de médicaments composés qui sont rassemblés selon leur forme pharmaceutique. Alors on a le chapitre des électuaires, le chapitre des sirops, le chapitre des collyres, les onguents, etc. Et ça, c'est un sujet que je n'aborderai pas. On considère que, alors, dans une introduction, Kohin El-Attar montre son attachement à la pharmacie. Il écrit « Cet art est le plus noble des arts après l'art médical. C'est un outil, et c'est un outil indispensable à la médecine, puisque on y trouve donc tous les médicaments simples et composés avec les aliments habituels qui faisaient également partie de la médecine préventive. On a donc ici, chez Kohin El-Attar, une façon de présenter la pharmacie qui est indépendante, qui devient indépendante de la médecine. Et c'est vraiment à partir du XIIIe siècle que l'on a considéré que dans le monde arabo-musulman, il y avait cette façon d'être indépendante pour la pharmacie de la médecine. Alors, jusqu'alors, il y avait bien eu des plaidoyers en faveur de cette séparation des deux disciplines. Par exemple, au XIe siècle, le médecin El-Razi, qui est le Razès des latins, avait déjà écrit quelques lignes à ce sujet. Il disait, je gêne, la connaissance des médicaments et la distinction de leur bonne et mauvaise qualité, de leur pureté et de leur falsification ne sont pas nécessaires aux médecins. Il n'est pas non plus permis d'appeler médecin celui qui a de bonnes connaissances des diverses sortes de médicaments. En revanche, est appelé médecin celui qui connaît les effets des médicaments sur le corps humain. Donc, on voit déjà là l'idée, on voit se dessiner deux professions différentes, mais c'est toujours le médecin, c'est vu sous l'angle du médecin, et de toute façon, ce plaidoyer n'a pas eu, dans la pratique, de conséquences. Plus tard, la distinction est encore plus nette entre les deux professions, et là, on le trouve sous la plume d'El-Biruni, qui a écrit au XIIe siècle un ouvrage sur les substances simples, mais il a accompagné ce livre d'une très longue introduction dans laquelle il parle de la pharmacie pour la médecine. Et il y dit que la pharmacie consiste en la connaissance des drogues simples et de leur genre, leur sorte et leurs traits caractéristiques, et en la connaissance de la confection des médicaments composés selon leur recette établie ou selon le désir de la personne chargée du traitement. Donc là, le monde médical est un petit peu plus écarté de cette définition. Malheureusement, il n'y a toujours pas de conséquences à ce plaidoyer en faveur de l'indépendance de la pharmacie. Alors, comment se passait jusqu'à l'époque de Kohin El-Attar, donc le XIIIe siècle, la vente des substances simples? On avait des marchands qui se postaient soit près des lieux de consultation des médecins, soit près des droguistes ou des parfumeurs, et il n'y avait pratiquement pas de vérification sur l'état des substances simples qui étaient vendues. La seule vérification qui se faisait était due à un officier, un magistrat, qui était chargé de la surveillance des marchés et qui était là pour punir les délits et les fraudes. Et ce personnage s'appelait El-Murtasib. Et voici un petit peu comment présentaient ces Murtasib, comment ils présentaient la pharmacie à cette époque. Le premier texte dont je vais vous parler, c'est celui d'El-Sakati, qui est un Murtasib qui vivait à Malaga, et il a rédigé un chapitre spécialement sur les droguistes et les apothicaires. Et vous voyez que les deux disciplines sont mélangées et tout le monde est dans le même sac. Mais ce qu'il dit en fait, c'est qu'on ne peut pas se fier ni aux uns ni aux autres, et que le Murtasib n'a pas les compétences suffisantes pour pouvoir juger des falsifications que ces droguistes et ces apothicaires peuvent apporter sur les marchés. Et il doit donc se faire aider par un médecin compétent pour surveiller les deux disciplines dont il parle dans ce chapitre. Un jugement encore plus sévère est celui de Ibn Habdoun, qui lui est de Séville. Il est Mourtassib également, et il écrit au sujet des pharmaciens et des droguistes qu'il faut se garder des droguistes et des apothicaires qui n'ont d'autre souci que d'empocher l'argent sans rien connaître à leur métier. Il fausse les ordonnances et tue les malades en préparant des médicaments de composition inconnue ou contre-indiquée. Donc vous voyez que les pharmaciens sont encore loin d'avoir gagné la confiance de leurs semblables. Mais au temps de Daoud El Attar, la situation est un petit peu différente. Parce que, en fait, l'apothicaire que veut être Daoud El Attar, qui dit avoir recherché dans toute la littérature de ses prédécesseurs un ouvrage qui lui convienne, et écrit, Daoud El-Attar écrit qu'il ne l'a pas trouvé, cet ouvrage, et il en donne les raisons. Premièrement, il indique que les ouvrages, qui étaient nombreux depuis le 9e siècle jusqu'au 13e siècle, et qui présentaient des formules de médicaments composés ou des livres sur les substances simples, que ce soit de façon individuelle ou bien des chapitres inclus dans les grandes encyclopédies, eh bien, ces livres-là étaient écrits par des médecins et pour des médecins. Donc, les apothicaires ne pouvaient pas s'y retrouver complètement parce qu'il y avait des éléments qui leur étaient complètement indifférents et inutiles, alors qu'il leur manquait des notions qui auraient pu leur servir. Donc ça, c'est un des premiers reproches que Daoud El Attar va faire à ses prédécesseurs. Le second reproche, c'est que les livres de ses prédécesseurs, auxquels bien sûr il va se référer, ils restent dans la traduction de ses anciens, eh bien ces livres sont dépassés parce que il y a de nouvelles substances qui sont toujours apportées dans la pharmacopée et que ces substances, il faut les inclure dans les formules de médicaments composés. Et il cite l'exemple du sucre qui est devenu extrêmement courant à l'époque de Daoud El Attar en Égypte et qui doit remplacer le miel dans les formules, dans les électuaires, dans les sirops, dans les robes, etc. Donc ça, c'est un reproche qu'il fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut écrire pour les apothicaires, mais il veut pouvoir choisir ses formules et il veut les choisir par une expérimentation personnelle. Alors, ça donne une valeur supplémentaire à ce livre parce qu'on sent que c'est un auteur qui a voulu en fait trier ces informations et les rendre d'actualité. Le point qui est aussi important dans cet ouvrage, c'est que cet homme possède un doukan, comme je l'ai dit tout à l'heure, une boutique. Et ça, c'est un endroit spécialisé où l'apothicaire qu'il est va pouvoir recevoir les patients. Il a un préparatoire, il a un conservatoire pour ses drogues, pour ses substances simples, et il a une boutique pour la distribution. Et c'est ce que je vous ai présenté sur cette diapositive, en fait, qui est extraite d'un manuscrit du XIe siècle, je crois, où on a donc le doukan avec assis à l'extérieur, avec sa barbe noire, le médecin, c'est porté au-dessus, et à gauche, le maître des lieux, celui qui prépare les potions et les sirops, l'apothicaire, avec une belle collection de pots que vous n'avez pas, monsieur Lafont. Alors, ce doukan est très important et donc Queen El-Attar dispose de tout ce dont il a besoin pour faire fonctionner vraiment une officine. Alors, on peut se demander si dans le monde arabo-musulman, antérieurement, il y avait déjà eu des lieux comme le doukan où on pouvait vendre préparer et sélectionner les médicaments. Alors, en faisant des recherches dans les textes anciens, et en lisant notamment les chroniqueurs, on se rend compte qu'il y avait des Rizanat. Rizana el Ashriba ou Rizanat el Tib. Ashriba, ce sont les sirops, les potions, et Tib, c'est la médecine. D'où vient Tabib, Tubib. Et dans Rizana, par contre, vous entendez une racine, Khazana. Et cette racine, Khazana, elle a donné des mots comme Marzin. Et Marzin, ça a donné quoi? Ça a donné magasin. Et donc, c'est une réserve. On trouve donc dans la littérature des endroits où l'on a une réserve de substances médicinales qui vont servir aux médecins. Je vous en donnerai deux exemples. Le premier, c'est à Cordoue, au Xe siècle. Le calife Abdelrahman III avait autorisé son médecin à entrer dans la réserve des médicaments, donc dans le Rizana, pour y prélever des substances qui lui faisaient défaut pour soigner un malade difficile. Et un second exemple, toujours dans l'Espagne musulmane, c'est dans la petite ville princière de Medina del Zara, qui se trouve à quelques kilomètres au nord-ouest de Cordoue, et où il y avait un palais qui avait été construit par le calife. Et donc, dans ce palais, il y avait des locaux qui étaient réservés au stockage des substances simples. Et celui qui en avait la clé, c'était le médecin El Arani, qui avait été donc choisi par le calife pour en être le maître de cette réserve. La seule différence, c'est que dans ce deuxième cas, le médecin El Arani dispose de 12 jeunes hommes qui sont là pour l'aider à préparer les potions. Alors peut-être ces 12 jeunes hommes seront-ils les futurs pharmaciens, mais pour l'instant ils sont complètement sous la coupe des médecins, et on voit bien que pour la préparation des substances composées, que pour la mainmise sur les drogues simples, c'est toujours le médecin qui la possède. Alors, je vous ai dit que Queen El Attar avait émis des règles pour la bonne marche de son apothicairie. Son livre est vraisemblablement écrit pour son fils, parce qu'il emploie le mot « walad », qui veut dire « mon enfant », mais cela pourrait être également un disciple très proche qu'il appellerait de cette façon. On ne sait rien sur sa vie, donc on ne peut rien affirmer. Et il va donner au cours de cet ouvrage non seulement toutes les recettes que ce jeune apothicaire pourra utiliser, mais également il va lui dire ce qu'il doit être dans cette pharmacie et ce qu'il doit faire. Et les premières recommandations vont concerner le matériel. Alors, sur la balance, vous avez pu lire, puisque j'ai déjà mis depuis un petit peu de temps cette diapositive, qu'il indique que lorsque tu te présentes dans ton local, prends la balance, essuie les plateaux et les étriers, des saletés restant de la veille, ajuste-les pour que la balance soit juste, essuie les poids et vérifie-les au début de chaque mois, bien qu'il soit mieux de le faire toutes les semaines. Donc, des conseils d'hygiène et de propreté. Je vous ai ici représenté un feuillet de manuscrit également d'un livre sur la balance écrit au XIIe siècle par El Khazini. Et vous voyez que ce sont des balances à deux plateaux avec les étriers accrochés au fléau. Ici, c'est une balance à usage médical, donc qui est une balance pliable qui est conservée au musée du Caire avec les deux plateaux qui sont superposés dans la même case. Et les poids métalliques à droite et à gauche, et la petite boule noire qui est à gauche, eh bien c'est une graine de caroubier qui servait également de poids. Alors, Queen ne se limite pas à donner des conseils pour la balance, il évoque également la propreté des récipients en disant, lorsque tu prends un récipient pour y préparer un sirop, une eau aromatique ou une huile essentielle, inspecte-le avant d'y mettre quelque chose et observe-le avant de le couvrir, car il sera scellé de ton cachet. Et là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que on est dans l'instant où l'apothicaire a la responsabilité de ses préparations. Et également, évidemment, il doit faire attention à sa propre réputation. Même chose, il continue la description. Il n'y a pas que les récipients, il y a également les cuillères qui pourraient apporter des impuretés dans ces préparations. Et donc, il conseille évidemment qu'on les tienne dans un état de propreté parfait et qu'on les protège par un linge propre. Alors, en dehors de ces descriptions du matériel de l'apothicairerie, il y a des chapitres qui sont sur la façon générale de traiter les substances simples, avant d'entrer ensuite dans le détail de toutes les préparations composées. Donc j'ai juste retenu ici ce qui va concerner la préparation des poudres qui sont faites à base de minéraux. Ces minéraux entraient souvent dans les préparations des collyres. Donc il leur fallait une finesse particulière. Et Daoud explique donc qu'il faut faire attention quand on a des substances de dureté différente en fait, comme la gomme de tragacanthe qui s'écrase difficilement, alors que les concrétions de bambou sont très faciles à réduire en poudre. Et il indique que si on les écrase ensemble, si on ne prend pas le soin de les séparer avant de les écraser, eh bien l'une elles pourraient se gâter entre elles, en fait, parce que l'une pourrait rester trop grossière et l'autre peut-être trop fine. Voilà donc les recommandations pratiques, on va dire, que donnait Daoud dans cet ouvrage. Maintenant, il fait également des recommandations d'ordre de bonne moralité, peut-on dire. Et là, on est un petit peu dans une sorte de serment de l'apothicaire. Le premier avertissement qu'il donne, et qu'il donne sur plusieurs pages, c'est qu'il faut que l'apothicaire est toujours face à Dieu et qu'il doit le craindre dans l'exercice de sa profession. Ensuite, il donne un certain nombre de conseils et il dit « Pratique avec honnêteté, évite la corruption, assiste aussi bien le riche que le pauvre, tends la main aux nécessiteux, reste humble, contente-toi d'un petit profit, ne parle pas trop lorsque tu commerces et pèse les mots avant de les proférer. Et sache, ne dis pas « je » trop souvent, et sache que la prétention est une preuve d'ignorance. » Et il ajoute, en dehors des conseils donc, sur lesquels il revient pour la balance, les poids, la propreté des ustensiles, « Examine les pots et la boutique une fois par mois, deux fois si tu peux. Si tu rédiges une ordonnance pour quelqu'un, réfléchis bien, car elle sera marquée de ton cachet. Ne fraude pas quant aux quantités délivrées, fais bonne dose, prends garde aux ingrédients frelatés et aux succédanés inappropriés. » En conclusion, et bien que cet ouvrage soit cependant à rattacher aux ouvrages des anciens, parce que beaucoup des recettes que Daoud va donner, on les retrouve chez d'autres auteurs, mais elles ont été expérimentées, et bien également que simplement, il se rattache encore aux anciens, il ressemble par certains côtés beaucoup aux ouvrages écrits précédemment, on se rend compte que cet ouvrage est un beau témoignage, en fait, d'un livre écrit par un apothicaire pour un apothicaire. pour les apothicaires, et que c'est un ouvrage dans lequel l'apothicaire n'est plus présenté simplement comme un droguiste ou un parfumeur sans scrupules et sans responsabilité, mais que là, on fait appel à son honneur et à sa responsabilité vis-à-vis de ses patients. Et c'est vraiment une façon de rédiger qui est complètement différente de ce qu'on a trouvé jusqu'à présent. Et c'est pourquoi on peut penser que c'est l'un des premiers livres écrits spécialement pour la pharmacie dans le monde arabe. Voilà, je vous remercie.
Y a-t-il des questions?